Bonjour, Régis Coulanges. Je suis conseiller national d'Amnesty International pour la région PACA et je vous propose une émission pour la dignité sur les droits humains et l'action d'Amnesty pour le respect de ces droits.
Et bonjour à tous, bienvenue sur Fréquence Mistral pour cette émission mensuelle avec Régis Coulanges pour la dignité qui traite bien sûr des droits humains. Bonjour Régis.
Bonjour Odile, content de retrouver les auditeurs. Je vais commencer un peu par les nouvelles de Digne. Ensuite, je vais vous parler de notre action pour l'abolition de la peine de mort partout dans le monde. Ensuite, on entendra Biram, un Mauritanien qui lutte contre l'esclavage. Et donc, nous l'avons reçu à Marseille et nous l'avons interviewé. On écoutera son message. Et ensuite, des autres nouvelles diverses. Donc, voilà le sommaire de cette émission. Je vais commencer de suite par l'actualité du groupe de Digne, parce que la semaine qui commence s'annonce chargée pour nous, puisqu'en effet, nous avons notre foire aux livres de printemps, le vendredi 4 avril de 14h à 19h30 et le samedi 5 avril de 9h à 18h dans la salle de l'Atrium à la mairie de Digne, la salle qui est en bas au centre du grand bâtiment. Voilà, donc on a des milliers de livres à proposer au public. Ces livres ne sont que des dons que nous font nos sympathisants, des personnes qui viennent, et nous les revendons à des prix modiques. Et ça nous permet de financer le mouvement, de financer nos actions et de faire des dons à Amnesty, donc bien sûr international, et à tout un ensemble d'associations qui découlent d'Amnesty International. Voilà, par exemple, à notre dernière réunion, nous avons décidé, grâce notamment à l'argent que l'on récolte à la foire aux livres, de faire un don de 1 000 euros à Primo Levi. Alors Primo Levi, c'est une association qui a été créée en partie par Amnesty International et qui s'occupe des soins apportés à des personnes qui ont été torturées. C'est que ces personnes sont souvent détruites et ont besoin de soins psychologiques, de parler à des spécialistes. Et donc, ils vont là, à Primo Levi, rencontrer ces spécialistes qui les aident à sortir de l'enfer dont on les a mis. Voilà, et c'est une association donc, qui est très importante. On est toujours en contact avec des gens qui ont été torturés. On écrit pour eux, pour les faire libérer. Et ensuite, on ne les abandonne pas. Et il faut aider cette association, Primo Levi, parce qu'ils ont une liste d'attente très importante. Il y a beaucoup de gens à soigner et il manque de moyens. Donc voilà, le groupe de Digne a décidé de faire un don de 1 000 euros à Primo Levi. Et puis 1 000 euros aussi qui va à l'aide aux sections d'Amnesty francophone, voilà, afin de développer Amnesty dans les sections francophones, notamment en Afrique francophone. Voilà. Donc, c'est la décision de la dernière réunion du groupe, grâce notamment à l'argent que nous avons récolté en vendant ces livres. Donc, n'hésitez pas à venir. À partir de mercredi, nous allons les installer, nous les rangeons, nous les classons par catégorie, donc, pour que ce soit le plus agréable possible. Et puis, voilà, tout le monde trouve son bonheur en cherchant.
Donc, c'est ce vendredi-là.
Voilà, c'est donc ce vendredi, le 4 avril, de 14h à 19h30. Voilà, on laisse ouvert assez tard pour les gens qui travaillent. Et puis, le samedi, on fait la journée complète de 9h à 18h sans interruption. Voilà, et à partir de 18h, il faut remballer. Et ensuite, tous les gens qui nous ont aidés, on fait un repas tous ensemble pour fêter cette foire aux livres qui, c'est vrai, nous apporte beaucoup d'argent et permet justement de faire des actions comme on vient de faire, les dons là, et puis de payer notre cotisation Amnesty International. Donc il y a une partie qui va pour la France, mais une partie qui va à Londres, où il y a le siège international. Voilà, puis en même temps, bien sûr, chaque fois qu'on fait une action, on fait aussi les pétitions, puisque les lettres et les pétitions, c'est notre arme. Donc là, il y aura 5 pétitions qui seront proposées au public. Une sur les travailleurs migrants pris au piège au Qatar. Donc on en avait parlé à la dernière réunion. Il y a eu une recherche d'amnistie, hein, des chercheurs qui sont rendus au Qatar et qui se sont rendus compte que des travailleurs venus de l'étranger étaient en fait pris au piège parce qu'on leur confisquait leurs papiers et ils ne pouvaient pas changer d'employeur. Ils ne pouvaient pas rentrer au pays sans leurs papiers et ils n'étaient pas toujours payés, des fois mal payés, mais des fois pas payés pour le travail fait. Voilà. Donc on a une pétition pour ces travailleurs migrants au Qatar. Une deuxième pétition concerne la Russie. Nous demandons de libérer le militant écologiste Evgeny Vitichko. Donc, ce militant écologiste a critiqué les réalisations effectuées aux Jeux olympiques de Sochi dans le cadre de sa sensibilité écologique. Et pour ça, il a été arrêté. Et donc, on demande sa libération dans cette pétition. La troisième pétition s'adresse au Guatemala. C'est Yolanda Oakley qui doit obtenir protection et justice. Donc, elle fait partie, vous savez, des 12 cas de la campagne 10 jours pour signer, que nous avions commencé en décembre à la médiathèque. Voilà, elle est en danger de mort pour son opposition à un projet minier. Donc, on demande quelle est la protection et quelle est justice. Quatrième pétition, c'est aussi une pétition dans le cadre des 12 personnes en danger. C'est une demande de justice aussi pour Ihar Tsikhanouk, qui est un militant homosexuel qui a été harcelé et battu par la police et qui demande justice. Et puis la cinquième pétition, bien sûr, c'est la Syrie. C'est une demande pour faire halte aux souffrances civiles, des civils qui sont assiégés en Syrie, principalement par le gouvernement, mais aussi par les groupes d'opposition. Et donc, voilà, c'est une pétition importante. On a fait le 15 mars, on avait notre assemblée régionale, donc qui regroupait les représentants des 19 groupes de la région, des 4 antennes jeunes et des 3 cercles d'action. Et à la suite de cette assemblée générale, ce qui se déroulait à Aix-en-Provence, on a fait un flash mob justement pour soutenir la Syrie et soutenir surtout les civils.
C'est quoi déjà le flash mob? C'est une danse sur une plage?
Non, alors un flash mob, c'est mobilisation rapide. Donc on s'était dit on va rester une demi-heure. Donc on avait les lettres, chacun portait une lettre, ça faisait avec les Syriens. C'était le slogan qu'on avait choisi. Et le 15 mars, en plus, c'était l'anniversaire tragique, puisque ça faisait 3 ans que la guerre civile avait commencé, la guerre en Syrie avait commencé. Donc, pour cet anniversaire tragique, on voulait marquer le coup. Alors, il y a une très grosse manifestation à Paris. Et puis, nous, on a fait ça. Donc, il y a des gens qui portaient ces lettres, d'autres militants qui étaient couchés par terre, et puis d'autres militants qui avaient les pétitions et qui faisaient signer les gens.
Et ça s'est passé où?
Ça s'est passé à Aix, au centre nouveau quartier commercial piétonné d'Aix, où il y a énormément de monde le samedi. Et on a recueilli presque 200 signatures, là, en une demi-heure. Il y a une jeune Syrienne qui nous a rejoint, qui a toute sa famille à Homs, et qui dit que c'est... On a raison parce que c'est vraiment dramatique. Ils sont affamés, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de tuer des chiens, des chats pour les manger. Et il y a des gens qui meurent de faim. C'est une catastrophe humanitaire. Donc on voudrait que la résolution de l'ONU soit effectivement appliquée et qu'on puisse arriver aux soins de première nécessité, leur porter des aliments, etc. Parce que ils sont mal soignés, ils sont, ils meurent de faim et ils sont harcelés et tués aussi. Voilà donc cette pétition pour la Syrie. Voilà donc c'était ce qu'on a choisi pour pendant notre réunion là, les pétitions qu'on a choisi de mettre en avant lors de la foire aux livres. Donc tous les gens qui viendront acheter des livres pourront aussi signer et très souvent, la plupart du temps, les gens qui achètent des livres, ils signent aussi nos pétitions parce que bon, ils nous soutiennent également, hein. Ils viennent pour acheter des livres mais aussi soutenir notre action et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà, et puis donc on a aussi discuté parce qu'on fait une action auprès des lycées de Digne. Et cette année, on avait choisi de parler de la peine de mort, de l'abolition de la peine de mort. Alors bien sûr, c'est plus d'actualité en France ni en Europe puisque l'abolition est acquise et on ne peut pas y revenir dessus. Le seul pays d'Europe qui maintient la peine de mort est la Biélorussie. Et en 2013, ils n'ont pas exécuté de personnes. Donc, en 2013, il n'y a pas eu d'exécution capitale en Europe ni en Asie centrale. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, ils ont toujours la peine de mort dans leur législation. Voilà.
Au cours d'une vie qui fut mouvementée, dans un siècle où l'horreur battit ses records, parmi les êtres qu'on a pu rencontrer sur le seuil d'un grand rêve ou dans des corridors, au cours d'une vie de verte et de pas mûre, à se dire quelquefois que le monde est foutu, que l'homme est fou, il va droit dans le mur. Il arrive que cette vie si cruelle et tordue s'ouvre sur un jardin d'odeurs, comme on avait les fleurs que l'on avait cru disparues. S'ouvre mystère et boule de gomme, quand l'espérance en l'homme chantait encore dans les champs et les rues. Dans les champs et les rues, au cours d'une vie qui fut mouvementée, il arrive qu'un jardin, qu'un simple visage humain, une main prend un nouveau chemin. Traversée de voyage au bout de la nuit, à se dire suffit, mais tout de même hanté par la mort qui fait le mort et par le temps qui fuit. S'ouvre tout un jardin d'odeurs, comme en avaient les fleurs que l'on avait cru disparues. S'ouvre mystère et boule de gomme, quand l'espérance en l'homme chantait encore dans les champs et les rues, dans les champs et les rues. Au cours d'une vie qui fut mouvementée, il suffit d'une voix, un certain regard pour qu'on voit un espoir toujours recommencer, que l'on croit en l'amour planté sans cesse et replanté dans le cours d'une vie mouvementée. Tous pardonnent, tous seconde, et l'on voit soudain reverdir, refleurir notre espérance en l'homme. Il arrive qu'un jardin, ou qu'un simple visage humain, une main, ouvre un nouveau chemin. Tout se gomme, se pardonne, et l'on voit soudain reverdir, refleurir notre espérance en l'homme.
Vous écoutez, vous êtes sur Fréquence Mistral et vous écoutez l'émission Pour la Dignité avec Régis Coulange qui nous parle des droits humains.
Voilà, alors je vais continuer avec la peine de mort, l'abolition de la peine de mort. Donc, Adine, nous avons fait venir une exposition que nous avons réalisée Amnesty France et qui s'intitule « Pourquoi il faut abolir la peine de mort ?» Et cette exposition, donc, nous l'avons installée pendant 15 jours au lycée Baudot-Rochas. Et nous avons reçu 3 classes différentes pour discuter justement sur ce thème-là et plus généralement sur Amnesty et sur la dignité humaine. Voilà, donc c'était très intéressant de parler avec eux parce que, bon, au départ, ils étaient plutôt favorables à la peine de mort, pratiquement tous.
Hein. Ah oui ?
Ouais, ouais. Et puis, en fait, en discutant, en réfléchissant, ben oui, c'est vrai qu'ils se sont dit, ah ben oui, quand on leur a dit, est-ce que, par exemple, vous pensez qu'en France, la justice est toujours juste ? Il n'y en a aucun qui a dit oui. Alors on leur a dit, mais... Et vous pensez que dans des... la France est un pays démocratique, mais vous pensez alors dans les... comment est la justice dans les pays dictatoriaux, les pays forts, en Iran, en Irak, Arabie Saoudite. Et ça les a beaucoup, beaucoup interrogés. Et donc on a bien discuté, beaucoup. Alors souvent revenait... ils étaient, oui, d'accord avec nous, mais bon... Et les violeurs d'enfants. Et donc, en discutant, on leur dit, mais peut-être aussi que réfléchissez les violeurs d'enfants. Si on regarde leur enfance à eux, est-ce que ce ne sont pas aussi souvent des enfants qui ont été violés et qui n'ont pas été entendus, ou ils n'ont pas parlé parce qu'ils étaient terrorisés, ou ils ont parlé, on ne les a pas entendus. Voilà, donc c'est toutes des réflexions qui étaient vraiment très intéressantes et chaque classe, quand elle est repartie, on a senti qu'on les avait fait réfléchir et que leur position était nettement moins tranchée qu'en arrivant. Et voilà, donc je pense que c'est nécessaire par les temps qui courent, quand on est en période de crise où on a une tendance à se replier et à chercher les boucs émissaires, etc. Je pense que c'est nécessaire d'intervenir dans les classes et de faire réfléchir pour qu'une société se tourne vers la vie et protège la vie. Et voilà, donc on était très contents d'avoir discuté avec ces jeunes.
Est-ce que c'est une demande des directeurs ou proviseurs de Baudot-Rochas et Sacré-Cœur ou
alors,
c'est vous qui avez proposé?
C'est une demande. Alors, lycée Baudot-Rochas, j'avais rencontré le proviseur pour faire un jumelage entre son lycée et un lycée du Liban. Et en discutant, il nous a dit, mais ça serait bien que vous interveniez dans les classes, parler des droits humains. Donc, c'est un peu un commun accord entre nous. Et donc, on a eu son accord. On a eu l'aide donc d'un professeur qui était partante pour amener sa classe. Et on a l'aide aussi de la responsable du centre de documentation qui a accepté de qu'on mette cette exposition dans ses locaux.
Donc une exposition qui représente des photos avec des textes de personnes condamnées.
Oui, oui, oui. Et puis qui reprend un peu, donc qui parle de la situation de la peine de mort dans le monde, et qui reprend un peu notamment les idées reçues sur la peine de mort et qui sont souvent fausses. Hein. Bon, par exemple, je vous en cite quelques-unes. La peine de mort a un effet dissuasif sur les crimes violents et rend la société plus sûre. Donc ça, c'est une idée reçue qui est complètement fausse. ça n'a jamais été prouvé. Par exemple, si on prend le Canada, plus de 30 ans après l'abolition de la peine capitale, le taux d'homicide au Canada demeure plus d'un tiers inférieur à ce qu'il était en 1976. Donc vous voyez qu'une société violente, les peines sont violentes, ça ne fait pas du tout réduire, ça n'a pas du tout un effet dissuasif. Une autre idée reçue, c'est la menace d'une exécution, c'est une stratégie efficace pour prévenir les attentats terroristes. Là, c'est complètement faux aussi, parce que la perspective d'une exécution n'arrête pas des terroristes. Au contraire, pour certains, mourir comme ça, c'est mourir en martyr. Donc, ça n'a jamais freiné les terroristes. Troisième idée reçue, la peine de mort est légitime si la majorité de la population y est favorable. Alors ça, bon, l'histoire est émaillée de violations des droits humains qui ont été soutenues par la majorité. Hein. Au temps de l'esclavage, la majorité soutenait l'esclavage. Et il n'en demeure pas moins que l'esclavage était une atteinte très grave à la dignité humaine et aux droits humains. Donc c'est un fait. Hein. La ségrégation raciale, c'est pareil. Le lynchage aussi. Voilà, tout ça... L'opinion publique, en plus, varie souvent en fonction des dirigeants politiques. Et lorsque les citoyens obtiennent des informations objectives sur la peine de mort, ça les fait changer aussi, comme on a pu faire un peu changer les jeunes qu'on a rencontrés, qui étaient aussi très contents d'avoir parlé avec nous et qui nous ont demandé de revenir. Ça leur fait plaisir. Voilà. Donc, je pense que c'est bien d'aller au-delà
des idées reçues.
Des idées reçues, voilà. Et puis, bon, il y a aussi... toutes les personnes exécutées ont été reconnues coupables de crimes graves. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a des gens qui sont exécutés alors qu'il n'y a pas eu de...
Il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de...
Non, il n'y a pas eu de crimes graves, il n'y a pas eu de crimes de sang, par exemple. Mmh. Hein, on peut être exécuté dans certains pays si on est homosexuel, par exemple. Mmh. Hein. Et puis aussi, le gros problème, c'est, bon, il y a ce que vous disiez... le risque d'exécuter des innocents. Mmh. Alors bien sûr, les jeunes ont dit, oui, mais maintenant, avec l'ADN, tout ça, bon, c'est pas toujours sûr à 100%. Et puis, les faits sont là, on a exécuté, et on exécute des innocents. Hein. Aux États-Unis, par exemple, depuis 1973, quand ils ont rétabli dans certains États la peine capitale, il y a 144 condamnés à mort qui ont été innocentés. Mmh. Ça montre... que la justice n'est pas à l'abri d'erreurs. Hein. Et quand la personne innocente est exécutée, ben voilà, on ne peut pas réparer.
Et puis, je repense, on a entendu il y a très peu de temps à la radio, sur les radios des grandes ondes, parler d'un Chinois qui est depuis 40 ans dans le couloir de la mort, depuis 40 ans.
45 ans, c'est
45 ans.
Si on parle du même, c'est pas un japonais
peut-être alors. Est-ce que c'est.
Ouais,
je sais pas.
Il a 78 ans, là. Il a été condamné à mort en 1968.
Il était comme un fou, quoi, par l'isolement, c'est ça, non?
Oui,
enfin, comment
vivre
tant d'années.
45 ans, oui.
Avec, parce que les couloirs de la mort, au départ, c'était prévu pour un temps très court entre l'exécution et le.
Il y en a qui passent des années et qui reçoivent leur. Quelques heures avant la décision de les condamner et de les exécuter, je veux dire. Et puis après, c'est remis. C'est une torture qui est terrible. Mm-hmm. Et alors, cette personne-là, elle a 78 ans. Elle a donc été condamnée en 1968. Condamnée à mort. Et il vient juste d'être libéré. C'est le détenu qui a passé le plus de temps dans le couloir de la mort au monde, sans doute, hein. Et il a été condamné au terme d'un procès inique. Il a été jugé coupable du meurtre de son patron, de l'épouse de celui-ci, de leur enfant. Mais il n'a pas eu de procès équitable. Voilà.
Et donc là, il est sorti grâce à Amnesty ?
Là, il a été... attendez que je reprenne un peu les faits. Il vient juste d'être libéré... Donc, il faut pas que le ministère public fasse appel à cette décision. Voilà. Donc, on intervient là-dessus parce que le ministère public peut toujours faire appel à cette décision. Hein. Donc, nous, on dit, non, ça, c'est une affaire qui mérite d'être rejugée. Hein. Il a été déclaré coupable sur la base d'aveux obtenus sous la contrainte. Entre parenthèses, la torture. Quoi. Et donc, il y a des questions qui restent en suspens, et notamment les récents éléments de preuve de l'ADN. Donc, on n'a pas retrouvé son ADN sur les éléments qu'on avait. Et donc, il y a eu des tests récents. Voilà. Donc, tout porte à croire qu'il est innocent et qu'il a passé 45 ans de sa vie. 45 ans. Pour un crime qu'il n'avait pas commis. Mmh. C'est une torture immense. Voilà.
Et puis, enfin, j'ai envie de dire, même s'il avait commis un crime, c'est quand même des peines. C'était toute une vie, 45 ans en prison.
Oui, 45 ans, il a 78 ans. Voilà. Mmh. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui sont condamnés... à partir d'aveux obtenus sous la torture, hein, ce qui est complètement contraire à tous les contextes internationaux de défense des droits humains. Quoi. On ne devrait pas pouvoir mettre en avant des aveux obtenus sous la torture. D'abord, on ne devrait pas torturer les personnes. Voilà. Donc, c'est intéressant de parler avec ces jeunes. Et donc, cette exposition, nous ne l'avons pas renvoyé à Paris parce que nous allons la mettre donc au lycée du Sacré-Cœur. Alors ce coup-ci, c'est à la demande d'un professeur de français qui fait travailler ses élèves chaque année, notamment sur le texte « La dernière journée d'un condamné à mort ». Et on s'est rencontrés et il nous a dit qu'il était intéressé pour qu'on vienne présenter ce thème à ses élèves. D'autant plus qu'ils auront travaillé là-dessus. Et voilà, donc on va installer cette exposition pendant 15 jours. Donc il sera visible par tous les lycéens de cet établissement. Et le 18 avril, on ira faire rencontrer les jeunes pour parler de cette exposition, pour parler de l'action d'Amnesty en tant qu'association abolitionniste.
À quel endroit ?
Donc là, c'est au lycée du Sacré-Cœur.
Ah oui, voilà. D'accord. Ça n'a pas été fait encore.
Du 7 au 18 avril. Voilà, on l'installe le 7 et on la laisse 15 jours.
7 au 18 avril au Sacré-Cœur. Voilà. Est-ce que ça m'intéresserait d'aller interviewer ces jeunes après aussi
Voilà, ben, il faudrait peut-être venir le même jour. C'est le 18 avril qu'on a rendez-vous. Je te donnerai l'heure exacte, comme ça tu pourras venir. Hein. Voilà, alors on a un peu les chiffres là, de 2013 qui nous sont arrivés. Il y a 778 exécutions en 2013, mais en fait, ce chiffre est bien loin de la réalité parce qu'on ne connaît pas le chiffre de la Chine. On pense qu'il y en a plusieurs milliers pour l'année, mais on se refuse à donner une estimation puisqu'on demande à la Chine d'être claire face à ces exécutions. On sait qu'ils ont diminué le nombre de crimes ou d'actes délictueux qui pour lesquels on peut encourir la peine de mort, mais le chiffre est, on pense qu'il y a des exécutions par très très grand nombre, on pense que c'est plusieurs milliers, donc c'est vraiment le pays qui exécute le plus. On espérait que lors de la visite du président chinois, notre président en parle. On a un peu des doutes. En tous les cas, les journalistes n'ont pas dit qu'il avait parlé. Pourtant, c'est un abolitionniste et il avait dit dans un discours qu'il...
C'est quel pays, alors ?
Donc, c'est la Chine. Là,
la Chine.
La Chine. Mmh. Alors, les pays qui exécutent le plus, bon, il y en a cinq principaux. Il y a la Chine, bien sûr, loin, très loin devant. Ensuite, il y a l'Iran, l'Irak, l'Arabie Saoudite et puis les États-Unis. Alors, les États-Unis, ce n'est pas tous les États. Par exemple, en 2013, le Maryland est devenu le 18e État des USA à abolir la peine de mort. Donc, sur l'ensemble des États, il y en a 18 qui ont aboli la peine de mort. Mm-hmm. Voilà. Ensuite, il y a des progrès. Chaque année, il y a des pays qui ratifient le traité de l'ONU qui interdit la peine de mort. Donc, en 2013, il y a la Bolivie, la Guinée et la Lettonie qui ont ratifié le traité. Voilà, il y a 98 pays dans le monde qui ont aboli la peine de mort pour tous les crimes. Et ce nombre augmente régulièrement. Donc, nous allons vers l'abolition totale de de cette barbarie. Mais le chemin est encore long et les quelques pays qui résistent sont des pays qui exécutent beaucoup et ce sont des pays souvent avec une population très forte et avec des fois des gouvernements très très forts qui ne sont pas toujours démocratiques. C'est pour ça que c'est très surprenant de la part de certains États, des États-Unis, d'avoir maintenu cette barbarie, même si on voit des progrès dans ce domaine. Alors on va peut-être, avant d'écouter notre ami Biram, passer la chanson de Férouz, qui est une Libanaise qui a une voix magnifique.
من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها وجه بحار قديم هي من الشعب خمر هي من عرقه خبز وياسمين فكيف صار طعمها طعم نار ودخان لبيروت لقد بابها أصبحت في المساء وحدها وحدها وليل
Voilà, c'est donc cette émission pour la dignité qui continue. On va, juste avant d'écouter l'interview, Régis va nous parler de la République centrafricaine.
Voilà, oui. Alors j'ai encore quelques informations donc, à vous donner. La République centrafricaine C'est un sujet qui nous inquiète énormément. Vous savez qu'il y a un nettoyage ethnique qui est en cours à l'encontre des musulmans par les milices anti-Balaka. La population musulmane est obligée de fuir et les troupes internationales de maintien de la paix semblent incapables de mettre fin à ces violences. Alors c'est la violence, la haine sont les conséquences de la crise des droits humains qui a commencé en 2012 lorsque la Seleka a commis des massacres dans les villages chrétiens. Et maintenant, ce sont des milices chrétiennes qui s'en prennent aux musulmans. Donc, vous voyez que la haine appelle la haine et on est un peu dans une impasse. Il faut absolument que les forces internationales arrivent à éviter tous ces massacres. Voilà, donc si vous voulez agir avec nous, il faut vous rendre sur le site de la section française, amnesty.fr, et vous verrez, nous avons des pétitions en ligne à signer, avec bien sûr aussi des informations sur les situations dans chaque pays. Donc, vraiment, c'est très simple. Si vous allez sur amnesty.fr, vous verrez tout en haut, il y a marqué « Mon espace », « Identifiant », « Mot de passe », « Se connecter ». Si vous remplissez donc votre nom, vous choisissez un mot de passe et vous vous connectez, chaque fois que vous retournerez sur la page d'Amnesty en faisant votre identifiant et votre mot de passe, vous aurez votre nom, votre adresse qui seront déjà écrits. Et donc, pour signer une pétition en ligne, ce sera très simple. Il vous suffira donc de vous connecter et ensuite d'aller aux différentes pétitions et de signer la pétition. Vous aurez plus à réécrire votre nom et votre adresse, etc. Donc, c'est vraiment très bien. Alors, en ce moment, vous avez donc cette pétition sur la République centrafricaine. Vous avez les pétitions sur la Grèce, sur le Myanmar, sur la Biélorussie, le Cambodge, la Turquie, le Bahreïn. Voilà, vous avez tout un ensemble de pétitions où la situation est expliquée, le texte est rédigé et donc il vous suffit de signer. Voilà, alors en attendant que qu'Odile mette au point l'interview, je vais vous présenter un journal. C'est un très beau journal qui est vendu en fait en librairie. C'est de la très très bonne qualité. Il paraît deux fois par an. C'est le numéro 3. Et il s'appelle Gibraltar, un pont entre deux mondes, au-delà de la Méditerranée, récits, reportages et fictions. Voilà, alors je vous présente ce journal. Alors dans ce numéro 3, vous avez des dossiers. Le pianiste de la place Taskim. Un reportage sur la Tunisie, le printemps qui tarde à fleurir, sur la jeunesse méditerranéenne. Un reportage aussi en Égypte, à la périphérie du Caire, où des milliers d'habitants pauvres ont investi un gigantesque cimetière et ses tombeaux. On appelle ça la cité des morts. Et il y a des milliers de gens qui vivent là. Un reportage sur... c'est un conte, là, qui s'appelle « Les Invisibles ». Délaissé par son père, Arthur, un enfant effacé, entre sans le savoir dans le monde magique et fraternel d'un masque africain. Vous voyez, donc c'est très, très varié comme sujet. Vous avez des reportages, des contes. Vous avez un récit dessiné. Alors, ce récit dessiné, Amnesty a participé à sa rédaction puisqu'il parle d'un cas qui fait partie des 12 cas de la campagne 12 personnes en danger. C'est celui de Jaber Mejri, qui avait été emprisonné pour ses messages sur les réseaux sociaux. Donc, uniquement pour ça. Donc, ils avaient été deux blogueurs à être condamnés à 7 ans de prison. Un qui avait réussi à s'enfuir et à trouver asile en France. Et l'autre qui se trouvait en prison. Et nous avons la bonne nouvelle de vous annoncer qu'il vient d'être libéré. Et nul doute que... la pression de l'opinion publique et notamment d'Amnesty qui en avait fait un de ces 12 cas de la campagne a joué en faveur de cette libération. Donc voilà, quelqu'un qui avait été emprisonné pour ses idées et qui retrouve la liberté, c'est toujours un grand plaisir. Donc, vous avez son histoire qui est racontée dans ce journal, qui est racontée sous forme de dessins en noir et blanc, donc qui montre que, justement, il y a quelqu'un qui a porté plainte par rapport à ce qu'il avait entendu, ce qu'il avait lu sur Internet. Donc, il a porté plainte contre ces deux jeunes. Et il dit même, Jaber doit s'estimer heureux de ne pas avoir été pris par les salafistes. Il aurait été tué, brûlé à l'acide même. Donc voilà ce qu'il dit à l'avocat quand il vient porter plainte. Il a osé faire une caricature du prophète. Il fallait qu'il soit condamné et il a été condamné. Mais heureusement, bon, il vient d'être libéré. Donc on voit un peu la souffrance aussi de sa famille, sa mère qui vient le voir tous les jours. Et c'est très difficile. C'était un élève brillant quand il était jeune. Donc sa mère parle. Il n'a jamais fait de mal à personne. Il était respectueux des uns et des autres. Il n'a jamais fait pleurer des gens, elle dit, sa mère. Et vraiment, il ne mérite pas de se retrouver en prison. Donc voilà, elle est heureuse parce qu'il a été libéré. Voilà, il faut maintenant que toutes les charges soient abandonnées, les charges contre lui et contre son ami. Donc on espère, voilà. Donc je vous conseille cette revue qu'on trouve en librairie, qui s'appelle Gibraltar. Voilà, vous avez le sujet, donc c'était des athées en Tunisie, la prison ou l'exil. Donc c'était le cas de ces deux jeunes qui ne croient pas en Dieu et qui l'ont dit sur Internet. Donc, l'un s'est retrouvé en prison et l'autre en exil. Voilà, et puis vous avez des récits sur Lampedusa, Venise, sur un bateau de pêche à 7, voilà. Ça parle de la Méditerranée, de tous les pays, de part et d'autre, de la Méditerranée, et c'est une revue qui est très très belle à découvrir. Est-ce que, Odile, nous sommes au point ?
Eh bien oui, nous sommes au point pour écouter l'interview de Biram.
Voilà, alors Biram est venu à Marseille, nous l'avons rencontré, nous avons même prêté nos locaux d'Amnesty Marseille pour l'Assemblée Générale de IRA France, c'est son association en France qui le soutient et beaucoup de membres d'IRA sont aussi des membres d'Amnesty parce que dans la région on suit son combat non violent contre l'esclavage. Et donc on a appris que tous ses amis l'ont poussé à se présenter à la candidature pour la présidence de la République. Les élections vont avoir lieu en juillet. Vous savez, je vous le rappelle, qu'il a reçu le prix de l'ONU pour la cause des droits humains en décembre 2013. C'est un prix très important qui avait été donné à Mandela par le passé, à Martin Luther King. Et d'ailleurs, il est dans la ligne de ces grands personnages par sa volonté de mener un combat absolument non violent et bien sûr contre l'esclavage qui sévit comme au Moyen-Âge en Mauritanie, mais aussi pour le respect des droits humains. Et il me disait que son désir, c'était de... S'il arrivait au pouvoir, c'est pas du tout le pouvoir pour le pouvoir, mais son désir, c'est de montrer qu'un pays musulman peut concilier l'islam et les droits humains, l'islam et le respect de l'autre, l'islam et la tolérance envers toutes les religions et même aux gens qui n'ont pas de religion. Voilà. Donc il aimerait montrer, s'il arrivait au pouvoir, une Mauritanie ouverte, tolérante, respectueuse des droits humains, respectueuse de la femme. Voilà. Et ça serait un bel exemple, je pense, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Donc je pense que c'est très intéressant de l'entendre, parce que je vous ai beaucoup parlé de lui. Mais à Marseille, on a réalisé une interview et on va vous la passer. On a une radio qui est aussi comme Fréquence Mistral, une radio qui accueille Amnesty. Et voilà, donc je vous laisse en compagnie de Biram et d'une amie amnestienne qui l'interview.
Et c'était sur Radio Galère. Voilà, Radio Galère. On l'écoute.
Bonjour Biram Dahabed et bienvenue au micro de Radio Galère. C'est la quatrième fois que nous avons le plaisir de t'accueillir et chaque fois tu as eu l'amabilité et la gentillesse de venir parler donc à notre micro pour l'émission d'Amnesty International. En 2009, C'était ta première visite à Marseille. Tu nous as fait découvrir la persistance de l'esclavage en Méditerranée et tu nous as sensibilisés sur ce problème, sur cette coutume de notre temps. Lorsque tu es revenu, tu nous as parlé de la suite de ton combat et aujourd'hui, on va prendre un petit peu de recul pour revoir tout ce qui s'est passé depuis cette époque, depuis ta première visite. Lorsque tu es venu donc pour la première fois, tu étais conseiller des droits de l'homme pour le président de la République de Mauritanie et tu étais également membre de l'association IRA, Initiative pour la résurgence du mouvement anti-esclavagiste. À ce moment-là, lorsque le combat a commencé, tu étais déterminé pour faire reculer donc cette pratique de l'esclavage, mais ce combat a été, on peut dire, il a été très dur. Tu as d'abord perdu ton emploi, tu as connu des arrestations, l'emprisonnement, la violence extrême, les mauvais traitements, tu as échappé à un attentat, tu as perdu tes biens, ton épouse elle-même a été gravement blessée au cours d'une manifestation, et tu as même été sous l'effet d'une condamnation à mort de la part du président de la République de Mauritanie. Mais dans le même temps, ton engagement a été reconnu au niveau international. Tu as porté devant les Nations Unies la connaissance de la situation de Mauritanie. Tu as reçu des prix. Tu as reçu le prix de la ville de Weimar. Puis tu as reçu le prix pour la cause des droits de l'homme tout récemment. Et un prix que je n'ai pas noté, pardon, excusez-moi.
Frontline.
Oui, c'est le prix Frontline. Donc un parcours qui est jalonné de difficultés, qui est jalonné de satisfactions. Et aujourd'hui, où en est ce combat contre l'esclavage en Mauritanie?
Je remercie Radio Galère qui a pratiquement témoigné et suivi mon évolution dès le début de mon engagement effectif contre l'esclavage, car la première fois que j'ai été interviewé par la Radio Galère en mai 2009, il ne faisait pas 8 mois à la fondation de notre organisation IRA Mauritanie. Je voudrais dire aussi que ma trajectoire et mon expérience pourrait être l'expérience du commun des personnes de ma communauté, les Haratin, c'est-à-dire les esclaves et les anciens esclaves de Mauritanie. Peut-être ce que moi j'ai eu de particulier, c'est le serment que j'ai fait à mon père avant sa mort, que je lutterai contre l'esclavage sans concession ni reniement, et que je parlerai contre l'esclavage sur tous les continents du monde et dans toutes les assemblées du monde. Ce qui fait que je voulais d'abord combler le déficit qui caractérisait mon père dans sa lutte matérielle, physique et morale contre l'esclavage, car il n'avait jamais pu développer les dimensions intellectuelles de sa lutte. C'est pourquoi moi, dernier né de la famille, ma naissance était lorsque mon père était déjà assez vieux. J'ai été mis à l'école, le seul membre, fils de la famille qui a été mis à l'école. Et j'ai perçu par cette inscription à l'école le souci de mon père de prendre sa revanche sur les lettrés et les érudits de mon pays, de ma société, qui ont été les précurseurs de l'esclavage, les codificateurs de l'esclavage, les légitimateurs de l'esclavage. Et c'est pourquoi je me suis engagé d'abord dans un projet académique d'étude de l'esclavage. Ce projet académique qui a culminé par un DEA à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a débouché sur un projet de lutte pour les droits de l'homme ayant dans son centre la question de l'esclavage. C'est pourquoi IRA Mauritanie a été fondée le 23 octobre 2008. Et la fondation de cette organisation et ses premières gestations ont été suivis par Amnesty France, Amnesty Marseille et aussi par Radio Galère. Les péripéties de cette lutte ont pu vraiment désorganiser le système de défense du système esclavagiste, que ce soit le gouvernement, les groupes dominants, les clergés en Mauritanie, qui continuent à légitimer l'esclavage, à fonder leur mode de vie sur l'esclavage, et à toujours adopter une ligne diplomatique active de déni de l'esclavage dans notre pays. Leur système de défense a subi plusieurs revers, surtout en matière religieuse, lorsque dans le summum de cette révolte, cette insurrection intellectuelle que j'ai voulu imprimer à la lutte de l'esclavage en mémoire à mon père, qui était l'incinération volontaire, publique et symbolique des codes d'esclavage, des codes noirs, des livres esclavagistes, qui sont considérés en Mauritanie comme la seule interprétation valable de la religion musulmane et qui sont placés dans la constitution comme la principale source de loi et qui sont à la base de la formation des magistrats, des officiers de police judiciaire, des administrateurs de commandement, des imams et des érudits. Je veux dire que ce coup porté contre le socle idéologique de l'esclavage, le socle religieux de l'esclavage, a constitué un déclic au sein des populations esclaves qui sont descendues par milliers pour la première fois de leur histoire dans les rues pour me défendre lorsque j'ai été emprisonné et condamné à mort et pour exiger ma libération. Et l'ampleur de cette mobilisation avec la solidarité internationale, comme ont témoigné des organisations comme Amnesty International, comme Frontline Defender, comme la FIDH, la Fédération Internationale des Droits de l'Homme, comme Freedom House, et comme aussi des organismes internationaux comme les Nations Unies et l'Union Européenne. Cette solidarité internationale et cette mobilisation de soutien national à l'intérieur m'ont permis de sortir de prison 4 mois et 6 jours après mon emprisonnement, avec 8000 personnes qui m'attendaient à la porte de la prison. Or, que lorsque j'ai été emprisonné, les membres de IRA ne dépassaient pas 800 personnes. Je voudrais dire aussi que les consécrations internationales à travers les prix qui ont culminé avec le prix de la cause des droits de l'homme que donnent les Nations Unies tous les 5 ans aux personnes qui se sont illustrées avec le plus de probité, avec le plus d'abnégation, avec le plus de désintéressement et d'attachement à la lutte non violente. Ce prix m'a été décerné après qu'il ait été décerné déjà à Nelson Mandela, à Martin Luther King, à Benazir Bhutto, Jimmy Carter ou autres personnalités. Ceci encore est une défaite lourde, est une défaite cuissante du gouvernement dans sa compétition, le gouvernement mauritanien dans sa compétition diplomatique contre nous et sur le plan international. Ceci aussi, c'est un certificat de probité que la communauté internationale nous octroie dans notre lutte contre ces phénomènes. Ce projet des droits de l'homme qui a été réussi de telle manière, malgré les emprisonnements, malgré les agressions, malgré la torture, malgré le bannissement, malgré toutes les tentatives de nous réduire, de nous affamer, de nous diaboliser, de nous inquisitionner parce que j'ai été accusé d'apostasie et d'atteinte à l'islam. C'est des accusations instrumentalisées par un pouvoir qui ne s'intéresse pas à l'islam, à vrai dire, mais qui s'intéresse à utiliser l'islam pour réduire ses adversaires, les gens qui appellent à la justice, à la liberté. Ce projet donc des droits de l'homme a débouché sur un projet politique. C'est pourquoi nombreux sont les groupes et personnalités de mon pays vivant à l'intérieur ou dans la diaspora qui m'ont sollicité pour pouvoir présenter un projet politique. Donc, me présenter comme candidat à la présidence de la République islamique de Mauritanie. C'est ce que nous sommes convenus de faire pour porter encore plus haut la voix de la lutte contre l'esclavage et pour l'universalisme des droits de l'homme dans l'islam, dans les textes de l'islam, et pour la vocation, pour un islam à vocation égalitaire, à vocation de justice, à vocation universaliste, à vocation d'égalité, à vocation démocratique. c'est aussi un projet politique qui va déboucher sur une gouvernance économique qui vise non seulement la protection de l'environnement, mais aussi la rationalisation de l'exploitation du sous-sol mauritanien et partout en Afrique. Donc c'est une nouvelle forme de vision. Donc ce n'est pas une candidature à la présidence de la République qui émane d'un parti organisé autour d'une connivence entre notabilités ou hommes politiques portés par l'ambition, mais c'est une candidature qui est proposée par le peuple et au peuple, au-delà des partis politiques et sans passer par les partis politiques. Donc, c'est la société civile qui est prise d'une certaine vision de la gouvernance, d'une certaine vision de la relation, des relations entre les hommes, d'une certaine vision des droits de l'homme qui est maintenant posée en Mauritanie. Et c'est ça l'évolution des choses que j'ai essayé de retracer ici,
Oui,
à
mais
travers ce cheminement.
c'est donc une grande nouvelle que tu viens de nous donner, hein, avec ce projet de te présenter pour des élections. Mais moi, il y a encore un point sur lequel je voudrais t'interroger. Un aspect de ton combat, c'est la lutte contre l'oubli. Contre l'oubli sur les événements dramatiques qui ont marqué l'histoire de ton pays.
Oui, des événements récents.
Oui.
Je suis le précurseur de la mise sur pied d'un processus qui viserait la vérité, la justice, la réparation et la mémoire sur la tentative de génocide orchestrée par le pouvoir raciste en Mauritanie contre les ethnies noires et qui s'est échelonnée entre 1986 et 1992 et qui s'est soldée par des milliers d'exécutions sommaires, des disparitions forcées, pour des dizaines de milliers de déportations de Mauritaniens noirs au Sénégal et au Mali, qui s'est soldée par l'expropriation des biens des populations noires, l'expropriation de leurs terres. Elle s'est soldée aussi, cette tentative de génocide, par la radiation massive des fonctionnaires civils et militaires noirs de l'administration mauritanienne dans les secteurs publics et privés. Le summum de cette barbarie a été atteint lorsque, le 28 novembre 1990, l'État mauritanien a décidé de sacrifier, comme on sacrifie le mouton pendant les fêtes, de sacrifier 28 Noirs comme 28 novembre, les jours du 28 novembre, pour fêter l'indépendance de la République, l'anniversaire de l'indépendance de la République islamique de Mauritanie. Je suis avec les veuves, je suis avec les orphelins, je suis avec les ayants droit de ces victimes disparues, massacrées, tuées, sacrifiées sur l'autel du racisme. J'ai aussi un devoir à faire vis-à-vis des morts. Nous avons un devoir vis-à-vis des morts. C'est pourquoi je me suis investi à prier sur tous les charniers qui jalonnent le territoire de la Mauritanie où reposent des hommes et des femmes tués, assassinés dans les assassinats collectifs au cours de cette tentative de génocide. La dernière fois, c'était le 6 janvier 2014, lorsque je me suis déplacé à 254 km au sud de Nouakchott, dans le village de Wéthi, où dans un charnier reposaient des villageois qui ont été arrachés à la vie par les soldats sous les ordres du pouvoir en place de l'époque en Mauritanie. L'armée mauritanienne m'a attaqué alors que je suis en prière avec les victimes, les orphelins, par un déluge de gaz lacrymogène. J'ai même perdu connaissance sur ce lieu, mais je tiens toujours à récidiver pour sensibiliser la communauté internationale et la communauté nationale sur la nécessité qu'il soit mis fin à l'impunité de ces crimes contre l'humanité.
Voilà, on espère que tout va bien se passer pour lui et pour la Mauritanie et puis pour le monde qui va réussir avec tous ses amis d'Ira Mauritanie, son projet pour une Mauritanie démocratique et respectueuse des droits humains.
Régis, merci encore pour toutes ces informations, tout ce travail aussi de préparation pour ces émissions à retrouver en ligne sur notre site fréquencemistral.net, onglet de Digne pour retrouver toutes les émissions pour la dignité.
Merci Odile.
Voilà.
Merci.
Alors on écoute donc pour terminer cette émission au bal des oiseaux.
Voilà, c'est le printemps. Les oiseaux chantent.
Merci.